Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
From my house in Clifton, I see ships under sail. Through St. Paul's to the harbor, tied up in the basin, lie a dozen floating jails.
Bonjour. Les séquelles de l'esclavage sont toujours palpables, estime Christiane Taubira. La loi qui porte son nom et qualifie cette pratique de crime contre l'humanité a été promulguée il y a 20 ans. Si elle a permis des progrès dans la reconnaissance du passé, elle n'efface pas le poids historique du commerce triangulaire qui, en 4 siècles, a fait une partie de la fortune de l'Europe moderne et qui a laissé, selon l'ancienne ministre, des traces dans les mentalités. Accent d'Europe poursuit aujourd'hui l'exploration de ce passé. Direction l'Angleterre tout d'abord. Au début du 19e siècle, le port de Bristol était la capitale britannique de la traite d'esclaves. Et plus encore qu'à Londres et Liverpool, l'histoire dans cette ville reste difficile à affronter. Des manifestants ont déboulonné la statue du grand marchand d'esclaves Edward Colston. Notre correspondante Marie Billon est partie sur ses traces.
Hello there, Mark.
Hello, Marie. How are you?
Merci d'être venu jusqu'à Bristol, l'une des principales villes du commerce d'esclaves. J'en ai bien peur.
Mark Steed est un historien local. Il a publié un livre sur l'histoire de l'esclavage à Bristol, du Moyen-Âge à l'abolition. C'est dans le quartier des anciens docks qu'il nous a donné rendez-vous.
J'ai choisi qu'on se retrouve devant le Hampstead, l'un des plus grands musées de la ville, parce qu'il y a ici l'une des rares, très rares, plaques qui rappellent le rôle de Bristol dans le commerce d'esclaves. Elle a été installée en 1997. C'était la première fois que Bristol reconnaissait ainsi son passé. La ville a mis beaucoup de temps à y arriver. Aujourd'hui encore, le manque de mémoire est consternant.
À la mémoire des innombrables hommes, femmes et enfants dont l'esclavage et l'exploitation ont apporté tant de prospérité à Bristol, peut-on lire sur cette plaque en métal. C'est l'une des deux seules de la ville. La seconde est de l'autre côté des docks, à l'entrée d'un pont.
Voilà le pont de Perrow, Perrow's Bridge. Il a été construit en 1999 et porte le nom d'un esclave qui a vécu à Bristol. En fait, si la ville lui a donné ce nom, c'est surtout parce qu'en 1996, quand il y a eu le Festival de la mer, il n'était presque pas fait mention de la traite d'esclaves. Des gens se sont plaints et les autorités ont saisi l'opportunité de ce pont en construction pour leur donner un os à ronger.
Perrow est l'un des rares esclaves à avoir été emmené jusqu'à Bristol. La plupart, en fait, étaient victimes du commerce triangulaire. Les bateaux partaient du port de Bristol avec des produits comme le cuivre jaune qui étaient ensuite troqués sur les côtes d'Afrique de l'Ouest contre des esclaves, eux-mêmes revendus en Amérique. Après quoi, les navires revenaient au port de Bristol avec des marchandises achetées grâce à l'argent de la traite et qu'ils revendaient à leur arrivée. Entre 1698 et 1807 environ, plus de 2000 navires transportant près de 500 000 esclaves battaient pavillon bristolien. Comme l'explique Marc, c'est la guilde des marchands aventuriers qui avait tenu à briser le monopole de Londres pour que Bristol puisse elle aussi profiter de ce juteux marché. Nous passons justement devant leurs locaux historiques construits en 1699.
Maintenant, on va aller place de la Reine. C'est là que les riches marchands du commerce d'esclaves ont construit leur maison au plus fort de la traite. C'est une place immense, la deuxième plus grande d'Europe. Et alors qu'elle a été baptisée en honneur à la reine Anne d'Angleterre, c'est une statue du roi William III qui trône au centre. Et s'il est là, c'est parce que c'est sous son règne que la ville de Bristol a été autorisée à commercer avec l'Afrique.
En marchant sur la place, Marc montre une autre bâtisse, Custom House. C'est là, dit-il, que Thomas Clarkson, un abolitionniste, a effectué une partie des recherches qui ont documenté le combat de ceux qui voulaient mettre fin à la traite d'esclaves. Mais c'est devant un pub, dans une petite rue pavée, que Marc s'arrête.
C'est un endroit miraculeux où Thomas Clarkson, en 1797, a passé 6 mois à rassembler des données sur la traite d'esclaves afin de pouvoir la dénoncer à la Chambre des communes. Il a été beaucoup aidé par le propriétaire de ce pub, Thompson. Ses clients racontaient l'horreur de l'enrôlement de force sur les vaisseaux dédiés à la traite. Ils étaient saoulés ou battus et contraints de s'engager contre leur gré.
pour Marc. Si la ville de Bristol doit mieux reconnaître son passé honteux, elle doit aussi faire la lumière sur son passé abolitionniste plus glorieux. Deux efforts qui doivent être faits conjointement pour que tout le monde s'y retrouve, dit-il.
Hi Roger, how you doing?
Hi Mark, nice to see you down here today.
Fancy.
Yeah.
Roger Bull a coécrit le livre sur Bristol et la traite d'esclaves avec Marc. Et c'est au pied du socle où se trouvait la statue du marchand d'esclaves le plus connu qu'il se retrouve.
C'est là qu'était la statue d'Edward Colston jusqu'à ce qu'elle soit déboulonnée par la foule le 7 juin dernier. C'était l'un des principaux acteurs économiques du commerce d'esclaves au XVIIe siècle. On devait sa statue aux Victoriens qui ont réécrit son histoire 150 ans après sa mort pour en faire un grand philanthrope et le père de la ville. Et ceux qui ont fait ça à l'époque étaient des gens de la bonne société de Bristol dont les familles s'étaient elles-mêmes enrichies avec le commerce d'esclaves.
Mais cette image de généreux bienfaiteur est la seule qui a été retenue par les autorités de la ville pendant plus de 100 ans. La statue était sur l'avenue Colston, par exemple. Tout doucement, Bristol interroge son passé, disent Roger et Mark, en marchant vers la cathédrale.
Voilà la cathédrale de Bristol, le lieu qui concentre les références à Colston. Cette tour, ici, porte son nom et il est représenté sur deux vitraux. Sur celui-là, ils ont mis des planches de bois pour effacer toute trace d'Edward Colston.
En dissimuler un morceau, ce n'est pas la solution. C'est triste, c'est amateur. Il faudrait au minimum une plaque qui explique l'origine de ces vitraux et rappelle le passé réel d'Edward Colston de manière accessible à tous.
Mark et Roger aimeraient qu'un musée soit installé à Bristol pour raconter le rôle de la ville dans la traite d'esclaves, ainsi qu'un mémorial dédié à ses victimes. Pourquoi pas là où se trouvait la statue d'Edward Colston avant qu'elle ne soit renversée et jetée dans la rivière depuis le pont de Perrault? Et la statue qui a été repêchée pourrait ainsi trouver place dans ce musée avec les explications appropriées.
Lembras-te dos tempos da escravidão, quando nós éramos tratados abaixo do cão. O chicote estalava, a carne rasgava, a alma sangrava, o corpo gelava.
Le Portugal a été le premier et pendant 150 ans le seul pays européen à pratiquer la traite négrière. Parti à la découverte des côtes de l'Afrique de l'Ouest au XVe siècle, grâce à leur avance en matière de construction navale, les Portugais prennent le relais des Arabes qui contrôlaient alors ce trafic. Retour sur les débuts du commerce triangulaire avec Marilyn Darcy.
Lorsqu'ils inventent les caravelles, ces embarcations grossières mais extrêmement solides, les Portugais entament un périple aux conséquences non calculées. Ils sont les premiers Européens à partir à la conquête de l'Afrique et ils vont aussi créer un premier exemplaire de ce qu'il sera convenu d'appeler le commerce triangulaire, l'échange et la vente d'êtres humains contre des épices et de l'or. À partir de la moitié du XVe siècle, les navigateurs partis de Lisbonne vont progresser le long des côtes de l'Afrique de l'Ouest. Ils cherchent les métaux précieux, mais aussi la main-d'œuvre ô combien bon marché puisqu'il s'agit de capturer des autochtones en Mauritanie, au Sénégal, dans le golfe de Guinée. Ils les obtiennent contre des denrées européennes qui plaisent tant aux seigneurs africains comme aux rois de ce qui est aujourd'hui le Ghana. Les Portugais comprennent très vite l'intérêt de ce commerce. Aujourd'hui, les historiens s'accordent sur le chiffre d'1 million de Noirs envoyés de force au Portugal entre le XVIe et le XVIIe siècle, à une époque où le pays compte à peine plus d'1 million de personnes. Ce commerce est parfaitement organisé. Les esclaves sont débarqués sur les côtes de l'Algarve au sud avant d'être vendus aux marchands et navigateurs portugais qui les négocient parfois à Lisbonne, la capitale. Avec la découverte de l'île de Saint-Thomé au large du Sénégal, les Portugais avaient constitué une véritable réserve d'êtres humains. Plus tard, c'est de là que partiront les esclaves vers le Brésil et l'Amérique du Nord, sous l'impulsion des Français et des Anglais qui ont pris la relève du trafic. Aujourd'hui, les descendants de l'Empire négrier portugais réclament que soit reconnu ce triste pan de l'histoire.
S'il est un pays où la question de l'esclavage reste quasiment absente du débat, en dehors des cercles de spécialistes, c'est l'Italie. Pourtant, la construction de la Rome antique doit beaucoup aux esclaves. Au Moyen-Âge, puis dans l'histoire moderne, leur présence est attestée, jusqu'au Vatican. Mais il y a un chapitre de l'esclavage qui est encore moins connu que les autres, c'est celui qui s'est déroulé sur la Méditerranée. Cécile Debarge nous raconte cette incroyable histoire.
Il existe à Palerme, le chef-lieu de la Sicile, deux saints protecteurs de la ville. La jeune Santa Rosalia et l'Africain San Benedetto, canonisé en 1652. Aussi étonnant que cela puisse paraître, cet homme noir vivait en Sicile au XVIIe siècle parce qu'il était l'enfant de deux esclaves africains amenés par de riches commerçants à Messine. Car en Sicile, comme dans les autres territoires qui forment aujourd'hui l'Italie moderne, les esclaves étaient nombreux. Certains provenaient de la traite atlantique, les autres de ce que l'historienne palermitaine Giovanna Fiume appelle l'esclavage méditerranéen.
L'esclavage atlantique est de longue durée, il ne prend fin qu'avec la libération de l'esclave. C'est complètement différent en Méditerranée parce qu'une rançon est demandée en échange du captif. L'esclavage est donc temporaire. J'ai calculé qu'il dure en moyenne 5 ans.
En Méditerranée, l'esclavage dérive d'une guerre des corsaires qui s'apparente à une véritable chasse à l'homme. Les bateaux s'attaquent les uns les autres, s'emparent de toute la marchandise et de l'équipage. Les captifs sont alors ramenés à terre, des lettres envoyées à leur famille pour demander une rançon en échange de leur libération. Le phénomène ne concerne d'ailleurs pas uniquement les pays du pourtour méditerranéen, explique Giovanna Fiume.
Les bateaux qui s'adonnent à cette activité à partir du XVIIe siècle sont aussi hollandais, anglais, suédois, car toutes ces flottes font leur entrée en mer Méditerranée et participent à ce qui est une page de notre histoire récente. C'est un phénomène qui concerne toute l'Europe.
C'est la deuxième caractéristique de cet esclavage méditerranéen, la réciprocité. C'est-à-dire que tous les marins à la recherche d'esclaves risquent de le devenir à leur tour s'ils sont capturés par des équipages ennemis. Au total, l'historienne estime qu'1,5 million d'esclaves auraient été capturés en Méditerranée.
À Bruxelles, des députés aimeraient que l'Union européenne reconnaisse l'esclavage comme crime contre l'humanité. Mais jusqu'à présent, ce sont les États qui ont l'initiative. Aux Pays-Bas, l'un des derniers pays à avoir aboli l'esclavage dans ses colonies, le débat a grandi autour de cette question. Et au Parlement, le sénateur Peter Nicolai a récemment demandé au gouvernement de prendre exemple sur la France. Notre correspondant Antoine Moutot l'a rencontré à Amsterdam.
C'est par une simple recherche sur Internet que tout a commencé. Il y a environ 2 ans, alors qu'un débat faisait rage sur le passé esclavagiste des Pays-Bas et d'éventuelles excuses néerlandaises, le sénateur Peter Nicolai décide de s'intéresser à la façon dont la question est abordée dans d'autres pays. Il découvre alors un texte de loi de 2001, la fameuse loi Taubira, pour la reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme crime contre l'humanité.
La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique, etc., etc., constitue un crime contre l'humanité. C'est ça. Alors maintenant, l'État hollandais reconnaît. On peut copier ça.
C'est ainsi qu'en mars 2020, au Sénat néerlandais, Peter Nicolai dépose une motion dans laquelle il suggère de suivre l'exemple français.
Dans la loi, il y a la reconnaissance comme crime, mais aussi c'est réglé que l'État hollandais doit financer les instituts qui font des recherches, le musée, tout ça. Et ça, c'est aussi dans les lois en France. Alors je me sens un peu petit voleur parce que j'ai justement copié, mais je crois que la dame me va pardonner pour ça.
La dame en question, c'est Christiane Taubira, à l'origine de la loi en France. Peter Nicolai voit dans son texte une première étape vers un apaisement du débat aux Pays-Bas.
Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ils devraient s'excuser. Dans le passé, vraiment, il y avait des entreprises et des familles riches engagées dans la traite des esclaves. Mais ils disent, mes ancêtres n'étaient pas parmi eux. Alors, de quoi me sentir coupable? La loi dit, alors, pas de dispute, c'est un crime. Oui, et on peut reconnaître ça, parce que c'était un crime.
Soutenu par plusieurs partis de gauche et du centre, la proposition de Peter Nicolai est toujours en cours d'examen par le gouvernement, qui a promis de donner sous peu une réponse. En attendant, les municipalités d'Amsterdam et Rotterdam ont récemment indiqué envisager des excuses officielles pour leur rôle passé dans l'esclavage. Mais selon un sondage commandé cette année par le journal Trouw, le sujet divise beaucoup. Là où 83% des Néerlandais d'origine surinamienne ou antillaise trouvent que les Pays-Bas ont une lourde responsabilité, seuls 56% de l'ensemble des Néerlandais sont du même avis.
Écoute ce disque. Écoute ce disque.
Musique, c'est le moment de retrouver Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui?
Je vous propose aujourd'hui le deuxième album du groupe Papier d'Arménie, un quintet conduit par la chanteuse et pianiste Masha Garibian et qui manie instruments et airs traditionnels arméniens, géorgiens ou grecs. Genats Pachas donne à entendre le doudouk, l'accordéon ou encore la clarinette au fil de chansons tour à tour, entraînantes ou plus mélancoliques, mais qui toutes ont pour point commun de pouvoir être chantées ensemble, réunies par l'amitié et la musique lors d'une belle soirée d'été par exemple. Et Genats, c'est le mot que les Arméniens utilisent pour trinquer.
Un titre extrait du deuxième album du groupe Papier d'Arménie, Genats Pacha. Et c'est ainsi que se termine Accent d'Europe, à la réalisation aujourd'hui Françoise Grelot. Rendez-vous sur le site rfi.fr, rubrique podcast, et sur votre plateforme favorite bien sûr. À bientôt.